France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Entendez-vous l'écho, une heure en direct et trois rendez-vous à ne pas manquer pour mieux comprendre l'économie. Place tout d'abord à l'actualité. Mercredi dernier, après plus de 20 heures de négociations, les ministres de l'Environnement des États membres de l'Union européenne ont trouvé un accord sur la cible climatique à atteindre d'ici 2040. Entre ambition climatique et compétitivité, l'Europe a-t-elle tranché? Réponse avec nos deux invités, Fougue Nguyen et Vincent Charlet. Retour ensuite sur une histoire très longue de l'énergie, clé de voûte de nos systèmes de production, mais aussi de notre modèle social qui produit, distribue, possède l'énergie et surtout au nom de quoi se poser la question. L'économiste Lucas Chancel nous apportera ses lumières. Enfin, à 14h55, nous retrouverons Arnaud Aurin et son fameux fil de l'écho, mais avant cela, place à la parenthèse du jour.
Votre rôle pour un chef d'entreprise, c'est certes de faire un certain nombre de choses, mais c'est beaucoup plus de faire faire. Et pour faire faire, il faut savoir convaincre, il faut savoir expliquer.
Savoir convaincre, c'était peut-être cela l'atout majeur de Claude Bébéard, dont on a appris la mort mercredi dernier. Et objet de cette parenthèse, l'homme s'est littéralement fait une place dans l'histoire économique française et dans les mémoires, dont ses multiples surnoms donnent un bon aperçu. Parrain du capitalisme français, CB, Crocodile Claude. Claude Bébéard, c'est d'abord et avant tout l'aventure AXA, qu'il fonde, qu'il incarne même. C'est ce que nous montre cette archive de 1985. Il a alors 50 ans et il est de passage sur France Inter.
Nous écoutons Monsieur Claude Bébéard, le président du groupe AXA Drouot.
L'assurance automobile est obligatoire, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, quand vous payez 100 francs de cotisation d'assurance, eh bien, on ajoute à ces 100 francs 31,5% de taxes fiscales et parafiscales. C'est déjà énorme. Avec ce nouveau 3% de plus, le 31,5% va passer à 34,5%, c'est-à-dire que, pour faire image, je dirais que l'assurance est taxée plus que le caviar. L'assurance automobile est taxée plus que le caviar, ce qui est tout à fait scandaleux.
À partir de là, c'est l'ascension pour AXA et pour son fondateur. Trois ans plus tard, en 1988, ce dernier est élu meilleur manager de l'année.
Claude Bébéard, président d'AXA, premier groupe d'assurance privée français, qui emploie 17 500 personnes. Et Claude Bébéard, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vous ont trouvé de particulier, vos collègues PDG, pour faire de vous le manager de l'année?
Bien, je pense qu'ils ont voulu honorer quelqu'un qui a consacré sa vie professionnelle jusqu'ici à un seul métier. C'est la victoire, la reconnaissance du métier. Je crois que dans les périodes difficiles, dans les périodes d'économie très concurrentielles, ceux qui gagnent, ce sont ceux qui restent dans leur créneau, dans leur métier.
Le PDG d'AXA, Claude Bébéard, est sorti grand vainqueur de l'Assemblée Générale de la Compagnie du Midi, dont il a finalement pris le contrôle avec l'appui du groupe italien Generali.
Une compagnie d'assurance australienne, le National Mutual Life, a choisi de passer sous contrôle français. À la majorité écrasante de 97%, les actionnaires de National Mutual ont accepté de vendre leurs actions au numéro 2 français de l'assurance, le groupe AXA. Décision qui comble le patron d'AXA, Claude Bébéard.
Claude Bébéard, bonjour. Vous présidez le comité de candidature de Paris 2008. En direct de Lausanne, vous étiez hier au siège du CIO. Alors parlons sans langue de bois. Le CIO est apparu hier assez désireux de confier les Jeux à Pékin, c'est-à-dire, on le disait, de confier les Jeux à un pays qui bafoue quotidiennement les droits de l'homme.
Non, alors absolument pas. Je ne peux pas être d'accord avec cela. Si vous regardez chaque critère, vous vous apercevez que pas du tout. Hein, les qualités de Paris, les qualités de chacune des villes sont bien reconnues.
La mise en examen cette semaine de l'ancien patron d'AXA pour blanchiment de capitaux aggravés ne lui aura donc pas coûté sa place à la tête de Paris 2008. Claude Bébéard n'a pas été conforté, quand même pas, mais soutenu, c'est certain.
Est-ce que mes aventures actuelles, que je regrette beaucoup, croyez-le, sont de nature à nuire à la candidature de Paris 2008? Eh bien, si j'en crois ceux qui sont sur le terrain, la réponse est non. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tout à fait accepté de rester à la tête de cette candidature.
Il aura fallu 8 minutes aux membres du CIO pour choisir Pékin. 8 minutes et 2 tours de scrutin pour anéantir les espoirs de Paris pour ces Jeux Olympiques de 2008. Le plus déçu était sans doute Claude Bébéard, le président de la candidature de Paris 2008. Il veut faire contre mauvaise fortune bon cœur au micro de Stéphane Faure.
Si je vous disais que c'était une victoire, j'exagérais. C'est une défaite. Tout le monde nous a dit votre dossier est excellent. Tout le monde nous a dit votre présentation est excellente. Dans la campagne que nous avons faite, on n'a pas eu de reproches sur la campagne que nous avons faite. Et nous avons perdu. That's it. On perd avec le sourire. Oui, oui, bien sûr. Et vous savez, quand on a derrière soi une longue vie d'affaires, de coups réussis, l'essentiel, c'est de savoir perdre.
L'art de la fusion, du rachat, du combat et surtout de la gagne, même quand on perd. C'est tout cela qu'il faut prendre en compte pour comprendre le personnage. Un personnage qui, après l'échec de la candidature de Paris pour les JO en 2008, occupe les médias avec un autre cheval de bataille, celui de la diversité.
Alors qu'il y a quelques années, il était difficile de parler de discrimination dans le monde du travail, aujourd'hui, 272 entreprises françaises ont signé la charte de la diversité de l'Institut Montaigne, le club de réflexion patronale de Claude Bébéard, président du conseil de surveillance d'AXA.
Un pays démocratique n'a pas le droit de laisser au bord de la route une partie de sa population.
Claude Bébéard, donc, qui est à la tête d'un empire des assurances, qui est une sorte de patron du capitalisme français, qui est un peu le patron de droite, enfin je parle à l'américaine en tout cas. Donc il a créé l'Institut Montaigne, hein, un think tank qui défend des idées libérales, économiquement libérales, mais aussi libérales au sens américain, donc à ce moment-là en 2000. Et donc finalement lui va mobiliser son think tank et puis toute une équipe autour de lui pour importer cette catégorie de diversité à l'américaine sur le territoire français, tout en traduisant cette notion, en l'adaptant aux spécificités du contexte local, du contexte national. À ce moment-là, son objectif, c'est vraiment d'importer cette catégorie pour traiter ce problème dans l'intérêt, bien compris, des entreprises.
Nous ne voulons pas faire, justement, avec BAC, de l'humanitaire, si je puis dire. Ça doit être rentable. Donc on cherche des projets qui ne sont pas des projets farfelus, qui sont des projets qui ont des chances d'être rentables. Et ensuite, on suit de très près ceux qui managent ces projets. On ne dit pas qu'on cherche du 15% de retour sur investissement. Mais je mets de l'argent dans le business Angèle des Cités, il faut que j'ai une rentabilité comparable à ce que je pourrais avoir si j'investissais mon argent en obligations ou en bons du trésor, au moins, quoi.
La chercheuse Laure Bérény, que vous entendiez à l'instant, nous parlait de Claude Bébéard au micro d'Entendez-vous l'écho. C'était l'année dernière, en avril, et je laisse le mot de la fin aux spécialistes des patrons français, le sociologue Michel Auferlet, lui aussi présent lors de cette émission.
Il a failli être maire de Rouen, mais il a refusé parce que ça l'intéressait vraiment pas. Maintenant, il n'y a plus de parrain, mais enfin, en tous les cas, il était considéré comme étant le parrain.
Ouais. Des parrains de ce genre, il n'en existe plus. Faut-il le déplorer ? Je laisse cela à l'appréciation de chacun. Et je referme là cette parenthèse. Place aux négociations européennes et à la cible climatique qu'elle s'est fixée pour 2040.
But this is Europe's man on the moon moment.
Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, le 11 décembre 2019.
This morning, the College of Commissioners agreed on the European Green Deal.
C'est le moment premier pas sur la Lune de l'Europe. Ce matin, le Collège des commissaires a validé le Pacte vert européen. D'une part, c'est notre vision pour un continent neutre en carbone en 2050, et de l'autre, une feuille de route très forte vers cet objectif, 50 actions pour 2050.
Wopke Hoekstra, commissaire européen au climat, à la neutralité carbone et à la croissance propre, le 5 novembre 2025. Climat, compétitivité et indépendance doivent tenir ensemble pour avancer. Pour aller de l'avant, nous devons assurer que ces trois conditions sont assurées ensemble et non au détriment l'une de l'autre. C'est ce dont l'Europe a besoin. La nouvelle trajectoire 2040 fixe une nouvelle cible vers la neutralité climatique et un nouvel horizon d'investissement que beaucoup nous avaient demandé. En particulier des entreprises qui nous disaient « S'il vous plaît, donnez-nous un véritable horizon pour que nous puissions savoir sur quoi nous pouvons compter. »
Des ambitions d'Ursula von der Leyen au compromis adopté entre les ministres de l'Environnement des 27 États membres de l'Union européenne mercredi dernier. Les années ont passé et les ambitions climatiques semblent de plus en plus complexes à concrétiser. Cet accord, obtenu après 20 longues heures de négociations, marque pour certains une sorte de renonciation aux ambitions européennes en la matière. Alors que s'est-il passé ? Prise de conscience des difficultés une fois le gros du travail accompli ? Faut-il y voir au contraire des concessions de circonstances faites face aux difficultés économiques de secteurs industriels inquiets ou un changement d'agenda plus global où la compétitivité au cœur du rapport de Mario Draghi l'emporte sur la transition écologique. Pour démêler ce qui s'est joué la semaine dernière et ce qui se joue aussi aujourd'hui alors que le compromis est soumis au vote de la Commission Environnement, j'ai le plaisir de recevoir Fougvin Nguyen, chef du service énergie de l'Institut Jacques Delors et Vincent Charlet, économiste délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Fukvinen Guyen, il faut bien comprendre ce qui s'est passé lors de ces négociations. Elles ont abouti, je le disais, à un objectif de baisse de 90% des émissions nettes d'ici à 2040 par rapport à 1990, afin d'atteindre la neutralité climatique en 2050. On voit que tout cela s'échelonne au fur et à mesure. Ça, en soi, Fukvinen Guyen, ce n'est pas une nouveauté. La Commission européenne proposait déjà d'inscrire cet objectif dans la loi climat en juillet de cette année. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une forme de tournant? Très concrètement, qu'est-ce qui s'est joué là la semaine dernière?
Ici, c'est en fait un peu les conditions générales de vente qui ont été négociées en dernière minute, c'est-à-dire qu'on s'est accordé sur comment on allait faire en sorte d'y arriver. Et on a mis en place plusieurs mécanismes, plusieurs instruments, comme par exemple le fait qu'on va réviser éventuellement tous les 2 ans en vertu de l'évolution des conditions économiques, l'atteinte de cette cible. On va faire en sorte de pouvoir déléguer une partie de la baisse des émissions à l'international. Et c'est tout en fait ces conditionnalités qui ont expliqué pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à obtenir son compromis d'une part, et en même temps pourquoi certains pointent du doigt le fait que l'ambition climatique a parfois été un peu sacrifiée.
Fukvinen Nguyen, pour qu'on comprenne bien, parce qu'on parle effectivement de négociations assez complexes, 20 heures ça semble beaucoup par rapport à la norme, c'est un compromis entre le groupe de droite, les sociodémocrates, Renew et les écologistes, donc compromis qui, je le disais, va être aujourd'hui soumis au vote de la commission environnement. Non, vous me faites signe que peut-être pas. Il a été reporté?
C'est plutôt cette semaine. Oui.
Ça devrait être le cas dans la semaine. Si les négociations sont si compliquées, on pourrait se dire que c'est un peu une habitude aussi, l'idée de mettre tout le monde d'accord au sein des 27 États membres, ça, c'est le concept même de l'Union européenne. Est-ce que là, c'était particulièrement complexe?
C'était particulièrement complexe parce que le changement en fait, de paradigme économique, issu à la fois des conséquences de la crise de la Covid et en même temps de la guerre en Ukraine, font que toute politique à l'heure actuelle qui serait perçue comme étant inflationniste, évidemment de la part des États membres, ils vont être tentés à mettre un énorme stop. Et donc l'objectif pour un certain nombre d'États qui participaient à la négociation au travers de leurs ministres, c'était d'obtenir des concessions pour justement aménager leurs spécificités nationales. Désormais, il faut aussi comprendre une chose, c'est que traditionnellement l'Union européenne met du temps pour s'accorder sur ses cibles climatiques, mais l'intérêt c'est que derrière, ensuite, elle va décliner ses politiques. Et maintenant la question qui se pose, c'est à voir comment, dans les mesures qui vont être remises sur la table, soit réouvertes, soit les nouveaux dossiers, on va voir où sera mis l'accent, en termes de compétitivité, en termes de durabilité ou en termes de sécurité d'approvisionnement.
Vincent Charlet, est-ce que ce compromis tel qu'il a été mis sur la table la semaine dernière, dans la nuit, on va dire, de mardi à mercredi, est un tournant selon vous, du point de vue peut-être des industriels aussi? Vous êtes un fin observateur aussi de ce qui régit, on va dire, la production industrielle en France et en Europe. Est-ce que vous, quand vous avez observé ce compromis-là se mettre en place, vous vous êtes dit, là c'est un tournant, là il se passe des choses très concrètes?
Je parlerais plutôt de point d'étape que de tournant. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut rappeler que l'Union européenne, malheureusement, a déjà pris des engagements formels qu'elle n'a pas tenus. Les 3% du PIB investis en R&D, le pacte de stabilité, bien sûr. Et donc, à côté de son devoir d'exemplarité, l'Union européenne a aussi un devoir de réalisme. On savait, bien sûr, que la lutte contre le dérèglement climatique était une entreprise pharaonique, de grandes difficultés. Ça n'est qu'encore plus vrai aujourd'hui, d'une part parce que le contexte géopolitique a changé, comme vous venez de le dire, et d'autre part parce que les alliés historiques de l'Union européenne sont en train de lui tourner le dos ou de l'abandonner en rase campagne. C'est d'autant plus dur pour elle de faire la course en tête ou de faire la course seule dans ce combat de la lutte contre le dérèglement climatique. Donc ça oblige à une forme de réalisme et de recalcul, si j'ose dire, des objectifs ou des conditions générales de vente, comme ça vient d'être dit, pour s'assurer que la trajectoire est tenable.
Oui, mais Vincent Charlet, est-ce qu'on modifie des objectifs, des ambitions de très long terme, c'est ce dont on parle quand on parle de transition écologique, au nom d'événements, et c'est ce que vous disiez à l'instant, de circonstances, des choses de très court terme, alors que ce soit la guerre en Ukraine, que ce soit l'épisode de la crise sanitaire, est-ce que ça justifie que ces événements de très court terme bouleversent une planification de très long terme?
Non, mais je ne pense pas qu'il soit bouleversé. C'est-à-dire que, personnellement, j'ai le sentiment que l'Union européenne est toujours déterminée à atteindre son objectif de 2050, et croyez-moi, ça ne sera pas simple. Deuxièmement, elle s'illustre plus que jamais comme étant l'endroit dans le monde où des politiques particulièrement volontaristes, avec des objectifs particulièrement contraignants, sont inscrits dans la loi ou dans les différentes réglementations en matière de protection de l'environnement et en particulier en matière de, d'émissions de CO2. Si vous regardez les classements quantitatifs qui sont par exemple établis par l'OCDE, la France en tête et quelques autres pays européens sont clairement parmi les pionniers. Donc pour moi, il n'y a pas de renoncement en la matière. Et j'ajouterais que quand on est à l'écoute des sphères académiques, des débats qui aujourd'hui mobilisent les chercheurs en économie, en sociologie, en histoire, bref, les sciences humaines et sociales, moi j'ai le sentiment que la population européenne dans son ensemble, dans toutes ses profondeurs, est véritablement engagée dans ce mouvement qui, je le redis, va quand même être difficile. Donc je ne trouve pas de justification pour parler d'un renoncement, même si... pour que l'objectif soit à portée de main ou atteignable, il a fallu, dans le cadre de cette négociation, accorder telle ou telle concession ou ajustement.
On va revenir sur la nature de ces concessions. Fouque Nguyen, avant cela, elle est intéressante, cette question de savoir si les populations sont toujours engagées, finalement, dans ce processus de très long terme, qui est exigeant, qui est complexe à mettre en place, voire qui demande un certain nombre de sacrifices, parce que c'est aussi de cela dont il est question. Est-ce que on a le sentiment que finalement il y a eu une forme d'interprétation des dernières élections, notamment l'élection européenne, qui ont mené peut-être, pas forcément à des renoncements, mais en tout cas une mise à l'écart ou un passage au second plan de ces ambitions environnementales et écologiques.
Oui, pour rappel, les élections européennes de mai 2024 ont vu la poussée d'une grande partie de la droite conservatrice et radicale au niveau européen. Et le discours sur lequel se basait cette famille politique-là, c'était un discours qui avait tendance à remettre en cause la lutte contre le changement climatique, également porté à l'agenda des questions liées à la sécurité et à l'immigration. Le constat qui a été fait par un certain nombre de leaders européens était de dire, puisqu'il y a eu cette consécration, cette poussée électorale de cette famille politique-là, eh bien cela doit nous conduire à baisser nos ambitions sur les questions climatiques. Or, lorsque vous confrontez cette analyse aux enquêtes d'opinion qui sont réalisées au niveau européen et que vous regardez les raisons, les déterminants qui ont conduit les électeurs à voter au cours de l'élection 2024. Vous vous rendez compte que certes, la question climatique n'est plus aussi élevée qu'en 2019, date des précédentes élections européennes. Néanmoins, vous vous rendez compte qu'elle reste à la fois en cinquième position d'une part et en même temps, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus l'émergence de priorités comme c'était le cas en 2019. À part la question économique qui prédomine...
C'est ce que je veux dire, la compétitivité. Avec
exactement. À part la question de la compétitivité, les autres priorités qui ont pris le pas, c'est la question liée à la défense, la question liée à la santé, notamment du fait des crises que l'on a traversées. Et lorsque vous regardez par contre sur le plus long terme et vous interrogez les citoyens européens, vous vous rendez compte que la question climatique reste prédominante dans leurs inquiétudes, dans leurs préoccupations. Et donc, la difficulté est de ne pas opérer un amalgame entre un certain nombre d'irritants politiques qui existent à l'heure actuelle sur un certain nombre de politiques climatiques. Par exemple, on peut penser dans le cas français aux ZFE, les zones à faible émission, qui là, évidemment, vont être problématiques et donc il faut traiter. Et avec, de manière plus générale, la volonté de la population européenne de continuer à accélérer la lutte contre le changement climatique.
Et on parle là, Fouque Nguyen, d'un cadre démocratique qui est celui des élections, donc on peut interpréter finalement un peu selon ces tendances politiques ou non. Mais cette question de la mise à l'agenda de la compétitivité, elle est aussi intéressante parce que justement, il n'y a pas eu nécessairement d'élections qui nous ont permis d'annoncer qu'il y avait effectivement une espèce de bascule de l'opinion vers davantage de compétitivité. On a l'impression que c'est plus une mise à l'agenda technocratique qui a été impulsée par le rapport de Mario Draghi en septembre 2024. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a un peu un double agenda, celui de comprendre ce qui s'est passé lors des élections et puis un autre plus technique, moins soumis finalement au contrôle démocratique ?
Oui, d'une certaine manière, les élections sont venues conforter ce qui existait déjà au niveau européen, qui était la mise sur la table de la compétitivité. Le rapport Draghi avait déjà été commandé avant les élections européennes, donc vraiment la compétitivité occupait l'ensemble des pensées des décideurs politiques européens. Il y avait aussi eu un certain nombre d'industriels au niveau européen qui s'étaient engagés avant les élections, au travers d'un manifeste public, à vouloir mettre sur le devant de la scène la question de la compétitivité. Et en fait, historiquement, lorsque vous regardez au niveau européen, lorsqu'on a réaliser un certain nombre d'avancées sur les questions climatiques. Ensuite, toujours la question de la compétitivité est revenue tel un mouvement de balancier. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours, lorsque vous élaborez des politiques publiques au niveau européen sur la question énergétique notamment, balancer entre la question de la compétitivité, la question de la durabilité et la question de la sécurité d'approvisionnement. C'est ce que rappelait votre extrait qui citait le commissaire européen, monsieur Hoekstra.
Vincent Charlet, on a cité la présence des industriels alors qu'ils produisent des rapports qui font valoir aussi leurs difficultés ou en tout cas leurs problématiques. Si on rentre un peu dans le détail de ces fameuses concessions justement dont on parlait, il y a celle autour de la question des crédits carbone internationaux. Alors c'est un mécanisme relativement simple, même si on pourrait aller dans un niveau de complexité assez intense. Les États membres de l'Union européenne peuvent financer des projets de décarbonation hors de l'Europe pour compenser une partie de leurs émissions. À elle, jusqu'ici, la part autorisée de ces crédits dans l'objectif européen était de 3%. Elle est passée avec ce compromis à 5%. Est-ce que c'est une forme de soulagement pour l'industrie ? Qu'est-ce que cela vient dénouer, finalement ?
Écoutez, je n'ai pas entendu de porte-parole de l'industrie qui me parle ni de soulagement ni d'inquiétude. Donc, je vais vous donner un point de vue d'économiste là-dessus. Plus les États européens, et notamment la France, se décarbonent sur leur propre sol, plus ils se trouvent face à ce paradoxe qui est que leur empreinte carbone totale est majoritairement le fait de produits importés. On connaît cette difficulté, ce paradoxe, c'est-à-dire que les politiques publiques qui sont mises en place sur le sol européen et en particulier français produisent leurs effets, réussissent à décarboner le bilan direct des activités économiques sur notre territoire, mais que ceci se fait en partie au détriment de ce qu'on appelle des fuites de carbone, c'est-à-dire une augmentation des émissions importées. Donc, cette prise de décision de la part des États membres, qui consiste à dire nous allons désormais analyser les émissions, le bilan carbone des Européens sur un spectre plus large, parce qu'il y a besoin, si j'ose dire, d'attaquer le problème à la source, me paraît plutôt bienvenu, d'autant que, on le sait, plus nous aurons décarboné nos propres activités, plus le complément de décarbonation coûtera cher. Et pendant ce temps-là, les rapports le disent, il serait plus efficace de s'attaquer à ces fameuses émissions importées. Donc je vois rien là qui ressemble à un renoncement. Ça m'apparaît plutôt comme étant une façon plus complète et plus sensée, en fait, de tenir compte de la réalité des échanges aujourd'hui.
Il y a un autre point qui a été abordé, enfin, il y en a eu de très nombreux, mais un notamment lors de ce compromis, de cet accord sur la cible 2040, qui réaffirme la volonté des États de voir la Commission présenter rapidement une révision des normes d'émission de CO2 des voitures. Donc, ça concerne le secteur automobile. Elle est pour l'instant mise à l'agenda de l'exécutif le 10 décembre, donc ils ont encore un peu le temps d'en discuter. On le sait, cette idée d'un véhicule propre d'ici 2035 avait beaucoup tendu les industriels de l'automobile qui par ailleurs étaient confrontés à beaucoup d'autres difficultés, Vincent Charlet. Est-ce que de ce point de vue-là, là on peut parler quand même d'un pas dans leur sens ?
Eh bien là encore, je n'en suis pas certain puisque les représentants des industries automobiles que je connais ne sont pas d'accord sur ce point. Certains disaient qu'il fallait garder l'objectif de 2035 intact, puisque la règle du jeu avait été donnée et que maintenant tous les efforts d'investissement avaient été faits. Et d'autres, on le sait, ont plaidé pour un assouplissement ou un éloignement de cet objectif. Donc, à nouveau, je ne parle pas au nom des industriels, je vous donne un point de vue d'économiste. Tout le monde sait, d'une part, que cet objectif est extrêmement compliqué à atteindre pour une raison précise, c'est qu'aujourd'hui, les consommateurs n'achètent pas les fameux véhicules électriques. Et que d'autre part, à cause de l'extraordinaire compétitivité ou l'excellent rapport qualité-prix des véhicules chinois, cet objectif environnemental s'est transformé en une fraction de seconde, en une brèche. Et nous avons aujourd'hui en circulation des voitures fabriquées en Chine, électriques, performantes, quand il y a quelques années seulement, il n'y avait aucune voiture chinoise en circulation sur le sol européen. Et donc, qu'à nouveau les décideurs prennent le temps de se demander si cet objectif était finalement aussi vertueux qu'ils le pensaient, me paraît assez sensé. Ce que je regrette personnellement, moi, dans cette histoire, c'est que l'objectif initialement d'interdire la vente de véhicules émettant du CO2 en 2035, on le sait, était pris par les décideurs européens sans aucune concertation avec les industriels. Et si on creuse, on a de fortes raisons de penser que la confiance était déjà rompue à cause de l'affaire antérieure du Dieselgate. C'est malheureux. Et malheureux, le mot est faible. C'est-à-dire que sur un objectif aussi central, parce qu'on parle de l'épine dorsale de l'industrie européenne tout de même, sur un objectif aussi central, les principaux porte-parole, les industries concernées et les décideurs n'aient pas été capables d'accorder, c'est même pas seulement leur violon, mais leur vision, ça aurait quand même été la base du bon sens. Espérons qu'on puisse y revenir.
Finalement, ce que vous nous dites, Vincent Charlet, c'est que ce n'est pas tant que les industries l'ont eu voix au chapitre lors de ce compromis, c'est plutôt qu'ils ont été mal entendus ou peu entendus lorsqu'il s'est agi...
Plutôt pas écoutés, autant que je puisse
lorsqu'il s'est agi d'établir cette cible à l'horizon 2035. Fouque Nguyen, sur ce renoncement potentiel à la cible de 2035 pour le secteur automobile, et puis peut-être plus largement aussi sur ce que cela nous dit de la façon dont les industriels peuvent parvenir à se faire entendre ou non dans ces débats. Et surtout, et c'est très intéressant dans ce que disait Vincent Charlet, surtout, cette idée qu'il y avait un certain nombre d'industriels qui étaient d'accord avec cette idée de 2035 parce qu'au moins c'était un cap clair, au moins c'était une forme de stabilité, on savait où aller, comment et à quel horizon.
Oui, tout à fait. Je voudrais rappeler l'un des grands intérêts en fait de l'Union européenne et sa force. Généralement, on parle de puissance normative, c'est-à-dire que à partir du moment où vous avez un marché de 450 millions de consommateurs qui va appliquer une seule et même règle, eh bien là, vous pouvez tenter d'influencer la manière dont les partenaires internationaux vont produire leurs véhicules. Et c'était en fait l'objectif avec cette vision de 2035. Désormais, ce dont on se rend compte, c'est que d'une part, la fin de vente du véhicule thermique neuf en 2035 était peut-être la mesure politique la plus identifiée dans le grand public vis-à-vis du pacte vert européen. Et c'est donc là, d'un point de vue du signal politique qui est envoyé, une forme de rétropédalage qui est quand même assez significatif. Ensuite, sur le fait de savoir si une partie de l'industrie pouvait y aller ou si elle ne pouvait pas y aller. Il faut rappeler que le fin de vente du véhicule thermique neuf en 2035, ça arrive dans 10 ans. Donc ça permet quand même à l'industriel de réorganiser sa chaîne de valeur, de mettre en place des nouveaux cycles de formation et de tenter de rapatrier la production de batteries électriques, investir dans la recherche et le développement. Et puis enfin, rappeler peut-être une chose, c'est que au-delà du signal politique, au-delà du signal qui est envoyé au travers de cette décision-là, c'est aussi les répercussions économiques. Les bons élèves, les constructeurs automobiles qui étaient prêts qui ont pour investi. Le passage à 2035, eh bien, ils se retrouvent pénalisés d'une certaine manière. Et là-dessus, ça grève la capacité, la compétitivité de cette industrie automobile qui pouvait et qui avait vocation à investir dans les technologies vertes. Je voudrais rappeler un chiffre. Un chiffre à l'horizon 2024. En 2024, les États-Unis ont réussi à générer 150 milliards de dollars au travers de leurs recettes issues de la vente des énergies fossiles. Si vous comparez à l'argent généré par la Chine sur la vente des véhicules électriques, de l'hydrogène vert, de l'acier vert, etc., c'est 180 milliards de dollars. Et ça vous montre en fait une chose, ça vous montre qu'un modèle économique basé sur la vente et l'exportation de ces technologies propres peut être rentable, peut être plus compétitif que fondé sur les énergies fossiles. Et c'est sans doute là ce sort modèle que l'Union européenne devrait aller à l'heure actuelle.
Vincent Charlet, si vous souhaitiez réagir, je vous laisse le mot de la fin.
Croyez bien que je suis premier à regretter que l'Europe ne dispose pas d'une filière ou de plusieurs acteurs parfaitement prêts et capables de produire des véhicules électriques avec les batteries dedans aux meilleures conditions qualité et prix qui seraient capables de convaincre les consommateurs. Bon, je constate, je déplore que on soit pas au rendez-vous et que pour des raisons qui seraient longues de développer, l'industrie européenne ne s'est pas aujourd'hui montrée capable de proposer à sa clientèle, des véhicules attractifs dans tous les sens du terme. Simplement, mon point est le suivant. Corrigez-moi si je me trompe. Ce que viennent de décider les 27, c'est de transformer une norme contraignante, y compris sur le plan technologique, c'est-à-dire en 2035, seuls les véhicules électriques seront autorisés, en une norme qui devient technologiquement neutre, comme on dit, c'est-à-dire que la puissance normative que vous évoquez dit, écoutez, moi je veux que à partir de 2035, les véhicules soient bas carbone. Et aux constructeurs de se débrouiller comme ils veulent, en mobilisant les différentes technologies existantes, hydrogène, carburant renouvelable, etc., etc., pour que les véhicules soient bas carbone. Et c'est a priori ce que les économistes ou spécialistes de la réglementation recommandent. C'est-à-dire que la puissance normative ne doit pas se mêler de technologies sous peine de devenir peu efficace. Donc, à nouveau, je pose la question de savoir si il n'y a pas là plutôt un geste de discernement de la part des décideurs.
Fouque, je vous vois faire la moue, mais ce sera un débat pour une prochaine fois, car effectivement le sujet est vaste. Un grand merci à tous les deux, Vincent Charlet et Fouque Nguyen, d'avoir participé à cette émission autour de la cible climatique pour 2040 adoptée par le Conseil des ministres de l'Environnement de l'Union européenne. Et tout de suite, on prolonge quelque part cette discussion, puisque nous allons aussi parler énergie et transition, mais en prenant un très large recul historique avec l'économiste Lucas Chancel.
Nous allons à la prospérité, j'en suis sûr. Nous allons à la vie meilleure. Nous allons à la vie plus digne.
France Culture.
Quelle serait la situation de bon nombre de mes compatriotes si aujourd'hui nous n'avions pas le système de protection sociale que nous avons, qui leur permet de conserver leur dignité? Ils seraient dans un état de misère que nous aurions du mal à soutenir.
Entendez-vous l'écho?
Cette société est capable aujourd'hui, en fonction de la croissance, de fournir à tous, et si c'est possible indistinctement à tous, une profusion de biens.
Était-ce le prélude d'une ère nouvelle où l'abondance permettrait de supprimer la misère? Beaucoup d'économistes le croyaient.
Aliétovine.
Rocky Balboa aurait eu tort de gober ses œufs crus lors de son célèbre entraînement, car un œuf cuit apporte un surcroît d'énergie de l'ordre de 80%. Encore faut-il que Rocky puisse payer sa facture d'électricité pour pouvoir cuire ce fameux œuf. C'est tout l'enjeu de l'accès à l'énergie qui est ainsi résumé. Avoir accès au gaz et à l'électricité, et donc au chauffage et à la nourriture cuite, sont des enjeux qui traversent l'histoire et qui, dès le départ, engendrent et structurent des rapports parfois très inégalitaires entre membres d'une même société et entre les sociétés. Qui possède la puissance et que nous disent ces choix des modèles de société hier, aujourd'hui et surtout demain? Derrière la question très matérielle de l'accès à l'énergie, ce sont donc des enjeux de pilotage de l'économie, d'accès équitable à l'énergie et de gestion des inégalités de richesse qui se posent. L'histoire de l'énergie est ainsi à la fois politique, sociale et économique et nous rappelle que les besoins matériels sont encore et toujours au fondement de notre façon de concevoir ce que faire société veut dire.
Si on paie le loyer, il reste à peu près 100 euros. Et si on paie les assurances, il reste à peu près 80 euros. Donc avec ça, faut-il payer l'électricité, le gaz ou manger?
Il y a un slogan qui est utilisé par l'entreprise. Il s'appelle « On vous doit plus que la lumière ». Oui, la dignité de l'être humain. Avant tout, c'est ça.
J'étais devant le compteur et... Je voulais l'empêcher de couper l'électricité, quoi. Je l'empêchais. J'ai dit non, je ne bouge pas de là parce que c'est question de vie et de mort. C'est vrai, on est en plein, il fait froid, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz, et que vous avez des acquis aussi. Dans l'obscurité totale, en plein 21e siècle, pour 300 euros, c'était malheureux.
Un extrait de l'émission « Là-bas, si j'y suis » consacré au Robin des Bois de l'énergie, diffusé en novembre 2005. Lucas Chancel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales et vous êtes l'auteur de cet ouvrage « Énergie et inégalités, une histoire politique » paru au Seuil le mois dernier. Lucas Chancel, l'énergie est-elle un bien essentiel selon vous?
Oui, je pense que c'est un bien essentiel. Et ce que cet ouvrage tente de faire, c'est raconter l'histoire de la prise de conscience du fait que c'est un bien essentiel. Et si c'est un bien essentiel, ça ne veut pas nécessairement dire que dans toutes les sociétés, à tout moment de l'histoire, les législateurs le perçoivent comme un bien essentiel. Et en fait, il y a une longue histoire de conflits sociaux, politiques, juridiques aussi, pour justement traiter ce bien-là comme un bien essentiel, et ça veut dire avoir des tarifs particuliers, ça veut dire aussi peut-être avoir une gestion de la production particulière, ça veut dire aussi avoir un cadre réglementaire qui va faire qu'on va pas traiter ce bien-là comme tous les autres.
Et pourtant, Lucas Chancel, si on parle modèle social, tout de suite viennent en tête des institutions très fortes, type sécurité sociale. La linéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 prévoit que la nation garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. On voit que ce droit a eu des implications très fortes et pourtant il n'y a pas d'équivalent de la sécurité sociale de l'énergie. Comment l'expliquez-vous ?
En réalité, quand on va créer la sécurité sociale moderne en France, on crée en même temps un monopole public sur l'énergie, EDF-GDF, en 1946. On va aussi nationaliser la production de charbon. Et on va créer à ce moment-là un tarif unique de l'énergie, de l'électricité, sur l'ensemble du territoire, un tarif administré par l'État, dans une logique de sécurité sociale, d'accès universel à ce bien qui est considéré comme essentiel. Donc en fait, il y a une réflexion qui est commune sur ce que certains vont appeler la socialisation de certains secteurs de l'économie, c'est-à-dire les extraire d'une logique purement marchande pour les placer sous un contrôle social, réglementé, politique. Et en réalité, on va faire la même chose en France sur l'énergie.
Mais il y a peut-être une contradiction et qui occupe une place très importante dans votre ouvrage et qu'il faut pointer dès le départ de cette conversation. Le fait est que la maîtrise de l'énergie est aussi une source majeure d'enrichissement pour qui la possède, pour qui la contrôle et la produit. Alors on va le voir notamment à travers de nombreux exemples, à travers toute l'histoire très très longue que vous retracez. Est-ce que c'est une contradiction majeure finalement ? Est-ce que c'est cela qui structure votre ouvrage ? Cette idée que d'un côté on a un bien essentiel versus une source d'enrichissement, ce qui n'est pas du tout le cas de la santé par exemple, qui est plutôt pensée en termes de dépenses.
Alors c'est une contradiction majeure, en tout cas c'est une tension qui traverse l'histoire des sociétés humaines et de leur rapport à l'énergie. L'énergie est essentielle et par conséquent ceux qui vont contrôler l'énergie contrôlent en quelque sorte la société. Ils vont pouvoir capter la rente énergétique. Et cette rente peut créer des richesses absolument pharaoniques. On peut penser à John Rockefeller, par exemple, avec sa Standard Oil et sa production monopolistique de pétrole. Mais on peut aussi penser à des industriels qui vont produire, au début du XXe siècle en France, de l'électricité, qui vont pratiquer des tarifs souvent jugés abusifs et qui vont extraire une rente de cette électricité-là. Mais de l'autre côté, l'énergie permet l'émancipation humaine, puisqu'elle permet de réaliser des actions, de réaliser des projets, de faire société, de faire des sociétés complexes. Donc il y a cette tension dans l'histoire de l'énergie, vraiment entre concentration des richesses d'un côté et émancipation. Et c'est une dimension extrêmement importante de l'histoire énergétique que j'essaie de retracer dans cet ouvrage. Donc c'est la dimension politique. Au-delà de la question technique, de la question matérielle, on voit vraiment cette articulation ici avec qui contrôle la matière et qui l'organise au service de quel projet de société.
Et d'où sans doute le double enjeu, à la fois permettre l'accès au plus grand nombre au chauffage, à l'électricité et au gaz dans cette mesure-là, et en même temps garantir une forme de régulation, de redistribution aussi, d'empêcher que de trop grands revenus ne se fondent sur cette rente aussi qu'est l'énergie. Il y a une contradiction aussi, une autre encore, que vous pointez dans votre ouvrage, Lucas Chancel. Vous le dites, les secteurs de l'énergie ne représentent qu'une petite partie du capital productif dans le monde aujourd'hui. La part des dépenses d'énergie dans le PIB d'un pays comme les États-Unis se situe autour de 7%. On pourrait se dire que l'énergie est un secteur qui ne pèse que peu économiquement. Alors pourquoi s'en préoccuper aujourd'hui ?
En fait, c'est un peu comme le secteur de l'éducation ou de la santé. Ces secteurs ne vont pas représenter 50% du PIB de la production de biens et services dans un pays, mais c'est des secteurs sans lesquels l'économie entière s'effondre, la société s'effondre. S'il n'y a pas de santé, s'il n'y a pas d'éducation, l'énergie, c'est pareil. Et tout à l'heure, vous parliez de... En fait, l'énergie est peut-être un peu différente en France du secteur éducatif ou du secteur de la santé, mais il aurait pu en être différemment. C'est-à-dire qu'on pourrait être dans un pays où le secteur de la santé est essentiellement privatisé et où la santé n'est pas perçue principalement comme un bien, comme un service public. Et on peut regarder les États-Unis, c'est un pays qui n'est pas très très loin de nous. Et c'est un pays qui a une vision du secteur de la santé qui est, comme on sait, assez différente, avec une production des biens de santé qui est largement marchande, et avec cette dynamique aussi de captation de la rente. Et l'énergie, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est un bien qui est absolument essentiel, qui peut être produit, piloté, géré par le secteur privé, mais qui peut aussi être produit, piloté, généré par le secteur public, avec des conséquences très différentes selon un choix ou l'autre, en termes d'accès, en termes de prix, en termes de pilotage de l'investissement, en termes de comment elle génère cette énergie, au service de quel projet, plus ou moins de sobriété, etc. Donc il y a vraiment des choix essentiels. Donc comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on gère ces biens essentiels? Donc je parle de l'énergie dans l'ouvrage, mais c'est vrai qu'il y a un parallèle absolument important avec d'autres biens qui sont ce que certains appellent cette économie essentielle, notamment la santé ou l'éducation.
Vous venez de retracer pour nous les liens entre énergie et inégalité. Pour compléter peut-être cette vision, je trouve que votre parcours nous en dit long aussi sur les liens qui existent. Vous portez en quelque sorte deux casquettes, mais bon, fondues l'une dans l'autre. L'une fait de vous un économiste qui se préoccupe des questions de redistribution. Je le disais, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Vous êtes aux côtés de vos collègues Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman. Vous avez contribué au rapport sur les inégalités mondiales. De l'autre, vous êtes un spécialiste des questions environnementales depuis quasiment le début, quand on remonte à vos articles les plus anciens. Qu'est-ce qui est venu en premier, Lucas Chancel ? Est-ce que quand on s'intéresse aux inégalités, on voit que l'énergie est la clé de voûte qui permet de tout comprendre, ou vous êtes d'abord intéressé aux questions d'énergie et d'environnement et vous vous êtes dit les conséquences en termes d'inégalités sont considérables ?
Moi, je dirais les deux. Je pense que c'est difficile de dissocier les questions matérielles, les questions écologiques, de comment est-ce qu'on répartit ces biens matériels au sein de différents composantes de la société, qui consomment quoi, mais aussi, et ça c'est davantage l'enjeu de ce nouveau livre, qui contrôle quoi. Et je pense que la question qui contrôle quoi est encore plus importante de la question qui consomme quoi au final. Pourquoi ? Parce que c'est comme s'il y avait un tuyau. À la fin du tuyau, bon bah il y a qui consomme quoi. Mais au début du tuyau, c'est vraiment comment est-ce qu'on produit, comment est-ce qu'on organise et qui contrôle cette production. Et tout ça, ça va déterminer différents niveaux de pollution selon groupes sociaux, différents niveaux de consommation d'énergie liés à ces niveaux de pollution. Et ça, ce sont des travaux qu'effectivement j'ai pu faire, j'ai pu commencer par ces travaux-là. Et puis j'ai essayé de remonter un petit peu le fil, remonter en amont du tuyau pour s'intéresser à ces questions de production. Et en réalité, si on regarde aussi l'histoire de la pensée en économie,
on
voit un parallèle. C'est-à-dire que fin 18e siècle, début 19e siècle, eh bien, les économistes vont s'intéresser aux questions de limites physiques du monde. Donc, Thomas Malthus, le Malthusien en chef, pour ainsi dire, va nous dire, voilà, le monde est contraint, il a ses limites, on ne peut pas produire plus rapidement qu'un certain rythme. Par contre, la population, elle augmente à un rythme qui est tellement élevé, elle augmente dans des dimensions exponentielles. Et donc, il va falloir réorganiser la société pour affronter ces contraintes physiques. Et la logique de Malthus, c'est en réalité, pour le dire simplement, de taper sur les plus pauvres, de revenir sur ces premiers systèmes de protection sociale moderne qui sont mis en place au Royaume-Uni entre 1795 et 1834. Et donc, Malthus va avoir une vraie influence sur le débat politique à l'époque. Le point de départ de sa réflexion, c'est quand même une réflexion sur les limites physiques du monde. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à peu près en même temps que Malthus, il y a un autre économiste très important qui s'appelle David Ricardo, autre grande figure de l'économie de son époque, qui part du même constat, c'est-à-dire le monde est contraint, il y a des rendements marginaux décroissants, c'est-à-dire chaque fois qu'on va vouloir produire une unité supérieure sur un terrain donné, ben on va produire un petit peu moins. Mais lui, sa vision, elle est très différente. C'est-à-dire que lui, il se soucie davantage de la captation de la rente par une élite, l'élite agraire. Ce que je veux dire ici, c'est que dans les deux cas, il y a une réflexion à la fois sur la matérialité du monde et aussi sur comment est-ce qu'on répartit les choses. Et Ricardo va, lui, vouloir davantage taxer les plus aisés ou aller chercher de nouvelles terres dans d'autres pays du monde. On voit que pour la même contrainte écologique, il peut y avoir différentes visions politiques de comment répartir, de comment organiser cette production. Et moi, en réalité, c'est ça qui m'intéresse depuis le début.
Et ce qui est intéressant aussi sur cette version plus politique, on va dire, mais couplée avec la question matérielle, c'est que finalement, tous ces économistes-là, toutes ces grandes figures de la pensée, de l'histoire de la pensée économique, se posent aussi la question, alors plus ou moins directement, de finalement, à qui sert le progrès ? Et c'est là où on en revient à une histoire de l'énergie, qui est très technique aussi, vous l'avez dit. Il y a cette idée de, à chaque fois qu'on progresse en termes techniques, qui véritablement en bénéficie ? D'où le fait que David Ricardo alerte assez rapidement, finalement, sur le risque de monopole. Et c'est une question aussi que se posait alors un autre penseur, pas nécessairement économiste, l'économiste, mais je parle là de Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité. C'était en 1755 et il pose les bases de cette réflexion.
Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques, tant qu'ils se bornèrent à coudre leurs habits de peau avec des épines ou des arêtes, à se parer de plumes et de coquillages, à se peindre le corps de diverses couleurs, à perfectionner ou embellir leurs arcs et leurs flèches, à tailler avec des pierres tranchantes quelques canaux de pêcheurs ou quelques grossiers instruments de musique. En un mot, tant qu'ils ne s'appliquèrent qu'à des ouvrages qu'un seul pouvait faire et qu'à des arts qui n'avaient pas besoin du concours de plusieurs mains, ils vécurent libres, sains, bons et heureux, autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature, et continuèrent à jouir entre eux des douceurs d'un commerce indépendant. Mais dès l'instant qu'un homme eut besoin du secours d'un autre, dès qu'on s'aperçut qu'il était utile à un seul d'avoir des provisions pour deux, l'égalité disparut, la propriété s'introduisit, le travail devint nécessaire et les vastes forêts se changèrent en des campagnes riantes qu'il fallut arroser de la sueur des hommes et dans lesquelles on vit bientôt l'esclavage et la misère germer et croître avec les moissons. La métallurgie et l'agriculture furent les deux arts dont l'invention produisit cette grande révolution. Pour le poète, c'est l'or et l'argent. Mais pour le philosophe, ce sont le fer et le blé qui ont civilisé les hommes et perdu le genre humain.
Un extrait du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité de Jean-Jacques Rousseau de 1755, lu par Anouk Milliot de l'équipe d'Entendez-vous l'écho. Lucas Chancel, là, le lien est très clair. Finalement, à partir du moment où il y a accumulation, à partir du moment où il y a propriété, pour pouvoir extraire du sol notamment plus de calories et donc plus d'énergie, il y a ce risque des inégalités qui s'accroissent et qui se creusent.
Oui, ici, le discours rousseauiste, c'est un discours sur l'apparition de surplus, et notamment de surplus énergétique, on le voit avec l'agriculture, donc c'est des calories supplémentaires disponibles aux populations humaines sur un territoire donné. Et donc la révolution néolithique va permettre en fait de démultiplier les populations sur un territoire donné, puisqu'on va réussir à mieux capter l'énergie qui nous vient du soleil. Et Rousseau pense que effectivement il y a une sorte de prime à la propriété pour la production agraire. Bon, ça on peut en débattre, c'est d'ailleurs débattu. Mais selon lui, la propriété va permettre tout simplement de pouvoir jouir des efforts, des investissements qui sont faits sur un lot de terre. Et ça, c'est le début de tous les maux, comme on sait, avec Rousseau. Ce qui est intéressant, effectivement, dans cette réflexion, dans cette discussion, c'est une réflexion sur la propriété. Et en réalité, depuis deux siècles, en démocratie, on débat constamment de quel est le bon équilibre entre un monde où tout serait propriété privée et un monde où tout serait propriété collective. Et en réalité, les démocraties ont constamment débattu de cet équilibre-là, et notamment sur les domaines essentiels de l'énergie, de la production d'énergie, de la consommation d'énergie et de l'écosystème industriel notamment, qui vient autour de l'énergie, c'est-à-dire la production de toutes les machines qui vont nous permettre d'utiliser ces énergies. Et donc, ce que j'essaie de faire dans cette histoire politique de l'énergie, c'est de relater de ces questionnements extrêmement importants sur qui doit posséder quoi et au service de quoi. Et par exemple, au début du XXe siècle, aux États-Unis, le New Deal va vraiment être une réflexion sur la redistribution des richesses et des pouvoirs, comme on sait, mais va aussi être une réflexion sur les redistributions possibles au sein du monde énergétique, puisque Roosevelt se méfie des producteurs privés d'énergie qui, comme en France, en réalité, vont pratiquer des tarifs prohibitifs. Et donc, il va décider de nationaliser une partie du secteur électrique américain. Il va aussi pousser d'autres formes de propriété collective, démocratique, au niveau municipal ou via des coopératives. Donc là, ici, on voit cette réflexion d'abord très théorique et ensuite tout à fait pratique, tout à fait transformée en texte de loi dans ces grands moments de redistribution des richesses et des pouvoirs que sont le New Deal rooseveltien ou les politiques mises en place en France, en Angleterre, en Europe de l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale.
Lucas Chancel, je vais peut-être me faire l'avocat du diable, mais en tout cas c'est l'occasion de faire un petit point à la fois technique d'un point de vue vraiment de l'énergie, mais aussi technique d'un point de vue économique. Il faut essayer de bien définir ce qu'est l'énergie en tant que bien économique. Sa production engendre quand même des coûts fixes très élevés et des coûts de production marginaux faibles. C'est ça aussi qui est à l'origine d'une forme de rente, mais c'est ça aussi qui pourrait justifier que ce n'est pas forcément au rôle des États, des gouvernements, ou d'une forme de socialisation que de s'en préoccuper. Les investissements sont très lourds, on pourrait se dire que ça soulage une partie des finances publiques que de s'en préoccuper. Alors au nom de quoi on pourrait vouloir ou souhaiter une forme de socialisation ?
En réalité, au XXe siècle, des économistes qui ne vont pas particulièrement se penser comme étant des économistes, disons, de gauche, vont avoir une réflexion inverse, c'est-à-dire coûts fixes très élevés et ensuite coûts marginaux, c'est-à-dire pour produire chaque unité supplémentaire d'énergie très faible, eh bien, ça peut tout à fait aboutir à des situations de captation extrême d'une rente. Puisque bon, bah, le patrimoine, les capacités de financement, le point de départ, c'est qu'ils sont relativement inégalement répartis dans une société. Donc qui va pouvoir investir? Bah, ce n'est pas tout le monde. Puis une fois que vous avez investi, vous allez pouvoir potentiellement ad vitam aeternam bénéficier sans dépenser quoi que ce soit de plus, dans la vision un petit peu théorique, là, de coûts marginaux, disons nuls, d'une rente, puisque voilà, vous allez produire cette énergie. Et donc, vous avez des économistes très en vue, très sérieux, qui vont notamment dire, bah, dans certains cas, notamment dans les cas où en fait, il ne peut pas y avoir forcément de concurrence, typiquement la production d'un barrage, par exemple, ou la production d'une grosse centrale alimentée aux énergies fossiles, où vous n'allez pas pouvoir en produire deux sur le même territoire, eh bien, dans ces cas-là, il peut y avoir une logique tout à fait rationnelle à ne pas laisser le potentiel de captation de la rente au secteur privé, puisque ça peut créer des monopoles, ça peut créer une concentration des richesses, etc. Et donc, dans ces cas-là, ça peut être tout à fait intéressant que soit le secteur public qui gère tout ça et qui finance cet investissement avec ses outils traditionnels. Ça peut être de l'endettement, ça peut être de la taxation.
Il y a la question du financement et puis de la vision stratégique aussi. Ça peut être aussi un argument pour se dire que l'État a un impératif, un devoir presque moral vis-à-vis de ses citoyens et que là où une entreprise privée n'irait pas forcément faute de rentabilité, l'État, lui, va investir dans des zones qu'il est compliqué de relier à un réseau électrique, par exemple, au nom d'une forme de cohésion sociale aussi.
Alors ça, c'est la grande tension ou dialectique du début du XXe siècle en Europe, aux États-Unis notamment. Il y a un marché de l'électricité, comme je le disais précédemment, dans de nombreux pays, ça commence par être largement privé, des industriels, des banques, notamment en France. La puissance publique essaye de les pousser, de les accompagner pour aller dans les zones rurales, mais c'est très compliqué. Il y a des réglementations qui vont essayer d'accompagner tout ça, des financements, des subventions, etc. Mais les législateurs estiment que le contrat n'est pas rempli et c'est notamment l'une des raisons, des justifications mises en avant en 46 lors de la nationalisation, c'est que en fait on veut poursuivre ce mouvement d'électrification totale du pays et que finalement ça a été assez coûteux de laisser le secteur privé s'en charger et d'avoir un secteur public qui essaye de pousser les choses par derrière. En fait, potentiellement, on va être plus efficace avec un secteur public et surtout on va pouvoir avoir un prix unique sur l'ensemble du territoire, donc une égalité d'accès dans une logique de service public. On va pouvoir avoir une péréquation tarifaire, bon, c'est-à-dire que dans certains endroits les prix sont plus faibles, dans d'autres sont plus élevés, mais on va essayer de tout égaliser.
Donc d'en faire un instrument de justice sociale.
Et voilà, et d'en faire un instrument d'outils de justice sociale est finalement l'un des éléments de ce qu'on appelle encore aujourd'hui un modèle social et, par exemple, le modèle social français.
Mais cependant, Lucas Chancel, tout cela ne tient pas. Vous parliez de ce tournant de 46-47 en Grande-Bretagne, en France, où il y a un certain nombre de nationalisations. Dès la fin des années 70, en 79, ça ne tient pas du côté britannique. La France va suivre progressivement. Est-ce qu'on peut faire un bilan de cette privatisation, alors à la fois en termes sociaux, mais aussi de productivité et environnementaux? Est-ce que il y a eu une forme d'efficacité, parce que c'était l'argument des économistes qui étaient pour une forme de privatisation. Est-ce qu'on sait tirer le bilan de cette privatisation des années 80?
Alors, sur les privatisations, donc l'une des toutes premières entreprises privatisées par le gouvernement de Margaret Thatcher, c'est BP, c'est le producteur de pétrole. Et on peut aussi se poser la question aujourd'hui, quelle serait l'équation politique vis-à-vis de BP et du gouvernement britannique notamment en lien avec les questions climatiques, si cette entreprise était encore la propriété du gouvernement, en tout cas de l'État britannique. On pourrait imaginer qu'il serait plus difficile pour BP de ne pas remplir tel ou tel objectif de réduction de ses investissements dans les fossiles dans le futur. Il n'y a pas d'automatisme ici. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour un État, pour un gouvernement, d'essayer de réglementer ça, de réguler ça par l'extérieur. Et donc, là, peut-être, on peut voir ici une occasion manquée. Maintenant, sur le bilan global des privatisations britanniques, ce qu'on peut dire, c'est qu'en réalité, quand on prend un peu de recul, qu'on dézoome, qu'on va essayer de comparer l'économie britannique à l'économie allemande, française, qui n'ont pas particulièrement vu ce même choc de privatisation de l'extérieur, on voit pas franchement de gains liés à la productivité. Bon, tout ça est débattu secteur par secteur, etc. Je pense que si on prend un peu de recul, on voit surtout différents modèles de sociétés proposés.
Et qui là ?
Il y a quelque chose qui est assez évident, c'est la captation de la rente. Donc, de nombreuses entreprises ont été privatisées et vendues à un taux qui a été jugé, en tout cas par certains, relativement faible par rapport à leur prix réel, et donc une captation de cette rente. Et peut-être un exemple très concret sur l'énergie, c'est l'exemple britannique et l'exemple norvégien. Les Anglais ont privatisé, finalement, suite aux privatisations thatchériennes, la rente gazière, alors que les Norvégiens ont décidé de poursuivre l'exploitation de cette rente sous secteur public. Et aujourd'hui, vous avez un fonds souverain norvégien qui est l'un des plus importants au monde, qui est une richesse partagée, tandis qu'au Royaume-Uni, cette richesse a été largement captée par le secteur privé et l'État britannique a davantage de dettes qu'il n'a d'actifs.
Un fonds dont la gouvernance pose aussi question, mais ce sera l'objet d'un autre débat, d'une autre conversation. Merci infiniment, Lucas Chancel. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur à Sciences Po, co-directeur du laboratoire sur les inégalités mondiales. Et je rappelle le titre de votre ouvrage paru au Seuil, Énergie et inégalité, une histoire politique que je recommande très vivement à nos auditeurs et nos auditrices. Un grand merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, on retrouve Arnaud Aurin qui lui aussi se penche sur l'histoire longue pour tirer des clés de lecture de notre monde actuel. C'est le fil de l'écho.
Le fil écho.
Pour les Occidentaux, le libre-échange c'était bien, mais ça ne les arrange plus. Vous en avez peut-être entendu parler, la célèbre firme allemande Bosch, le travail de pro pour les bricoleurs, va supprimer 13 000 emplois, soit 10% de ses effectifs. Plus généralement, toute l'industrie allemande souffre et licencie. La chimie, les machines-outils et bien sûr l'automobile. Pour tenter de faire face à l'inimaginable il y a encore 4 ou 5 ans, autrement dit une désindustrialisation massive, une partie du patronat allemand est en train de faire sa révolution. Essayons de comprendre ce qui est en train de se passer. Bien sûr, il y a le choc énergétique. L'Allemagne ne peut plus produire à aussi bon marché qu'avant avec les hydrocarbures russes du fait de la guerre en Ukraine et des sanctions. Mais le fond du problème est ailleurs. Dans les années 1990, puis plus encore après l'entrée de la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en 2001, beaucoup de pays occidentaux ont connu leur choc chinois. Des pays qui fabriquaient des produits de moyenne gamme ont perdu des millions d'emplois. C'est le cas des États-Unis et de la France. Longtemps, l'Allemagne s'est crue à l'abri. Pendant des décennies, l'industrie allemande a investi en Chine, souvent en livrant ses savoir-faire. En même temps, elle maintenait un excédent commercial très conséquent. Mais désormais, la Chine sait tout faire, mieux et moins cher que l'Allemagne. Les machines de pointe, la chimie, les automobiles, les panneaux solaires, l'acier, j'en passe. Les exportations allemandes souffrent et la croissance du pays stagne. C'est l'heure du choc chinois outre-Rhin. Le chancelier Merz tient le discours du monde d'avant, celui du néolibéralisme. Il faudrait, selon lui, plus d'accords de libre-échange, moins de réglementation et des réformes du marché européen. Mais de plus en plus d'entrepreneurs et de politiques allemands plaident pour une autre approche. Les mots de souveraineté, de commande militaire géante, de lutte contre la concurrence chinoise sont de plus en plus utilisés. La Fédération allemande des constructeurs de machines, au cœur du Mittelstand, a demandé il y a peu des droits de douane pour lutter contre les importations chinoises. Pour mesurer ce qui est en train de se passer, remontons au XIXe siècle. Après l'union douanière allemande sous l'égide de la Prusse, les années 1850-1870 voient le triomphe du libre-échange. Mais en 1879, l'Allemagne change son fusil d'épaule. Le pays est confronté à des importations bon marché de céréales, de fer et de textiles, venus de Russie, des États-Unis, de Belgique et d'Angleterre. L'alliance entre le fer et le seigle, encouragée par Bismarck, engage un retour vers un protectionnisme assez agressif. Ainsi, en 1860 comme en 1990, la science économique croyait à la mondialisation heureuse par le libre-échange. Les leçons de l'histoire sont un peu différentes. Lorsque des pays neufs développent des avantages à l'exportation, les gagnants d'hier deviennent les perdants d'aujourd'hui et ils veulent changer les règles. On commence à voir la Chine, pays officiellement socialiste, défendre le libre-échange auprès des instances internationales contre les capitalistes occidentaux. Le monde à l'envers ? Non. L'économie, c'est tout simplement politique.
Merci beaucoup Arnaud, votre chronique est à retrouver sur la page du Fil de l'Écho sur le site de France Culture. C'est aussi là où vous pouvez retrouver cette émission et toutes les précédentes. Un grand merci à Valentin Gris et Anouk Milliot qui ont préparé cette émission et à Serge Leroy qui l'a réalisée et mise en ondes.